I'm gonna send him to outer space.
Une pause, un podcast et une révolution. www.libradio.org.
To find another race. I'm gonna send him to outer space.
Nous sommes jeudi 20 mai 2021. Bonjour Esteban Muñoz. Alors, tu es coordinateur de Nouvelle Génération au Chili et membre également du Parti communiste Genevois. Que souhaiterais-tu ajouter à cela?
Écoute, bonjour William. ça fait plusieurs émissions, ça me fait plaisir de pouvoir parler encore avec toi d'un sujet aussi important que le Chili. Par rapport à la présentation, j'ai pas grand-chose d'autre à ajouter.
C'était rapide.
Je suis assez impatient de pouvoir aller dans le vif du sujet.
Très bien, alors on va y aller. Alors effectivement, le Chili, c'est le sujet dont on va parler ce soir, un pays singulier, dont on vantait le modèle en Amérique latine. Alors mais quel est-il ce modèle et d'où vient-il? Tu vas nous le rappeler bien entendu. On a appelé ça également le miracle chilien hein, qui a été voilà mise en place sous Augusto Pinochet selon des idées extrêmement libérales, hein, d'ultralibéralisme. Mais je te laisserai peut-être en parler si tu voulais contextualiser après ce vers quoi nous allons et d'où nous venons. Peut-être qu'on peut dire qu'avec ce nouveau modèle, le pays a connu à l'époque de nombreuses et des funestes réformes, comme voilà la privatisation des entreprises publiques, des licenciements massifs, notamment voilà la mise en place de la retraite par capitalisation hein, par José Piñera, qui est le président du Chili, qui a eu un mandat 2010-2014 et puis qu'il est à nouveau depuis 2018. On sait que les budgets de l'éducation et de la santé sont également réduits, les salaires baissés. En gros, une catastrophe pure et simple, celle du capitalisme outrancier au service des bourgeois et de leurs bourses. Alors voilà, après une énième augmentation du coût de la vie, là c'était les billets de métro hein, qui étaient concernés, eh bien là nous sommes en 2019, un mouvement de blocage surgit avec des revendications liées également évidemment au renchérissement du coût de la vie, mais pas que, également à la criminalité, à la corruption, à la santé et à l'éducation. L'état d'urgence à ce moment-là est décrété le 19 octobre 2019. L'armée est déployée dans les rues de plusieurs villes, à Santiago, mais pas que, et un couvre-feu est décrété dans 10 villes du pays, dont Santiago du Chili. La Plaza Italia à Santiago devient un symbole et un lieu de manif géante, hein, et notamment, on va retenir le 25 octobre, où une énorme manifestation regroupe des centaines de milliers de personnes contre les inégalités économiques et pour la démission du président Piñera. Alors cette révolte, elle va tout emporter, en tout cas une partie des choses, hein, les choses vont vraiment changer, malgré, il faut le dire, le terrible tribut qui est payé par les manifestantes et les manifestants, des blessés et des morts nombreux. On parle, et j'aimerais bien que tu me démentes ou que tu confirmes ce chiffre, on parle de 2 millions de personnes qui ont pris la rue dans un pays de 18-19 millions environ. C'est une proportion effarante qui en dit long de ce que l'on a appelé la Marcha Más Grande del Chile et la plus grande manifestation du Chili. Encore deux petites dates. Le 10 novembre, Piñera annonce le projet de modification de la Constitution, qui était une des principales revendications des manifestants. Le 25 octobre, il y a le référendum, donc ce qu'on a appelé le plébiscite national de 2020. Les électeurs sont amenés à se prononcer sur le changement de la Constitution. C'est totalement historique, hein, sur la nature de l'instance également qui rédigera cette nouvelle constitution. Il faut savoir que c'est, je crois, environ 80% du peuple qui veut ce changement de la constitution et 80% également qui se prononce pour une assemblée complètement élue. Et ça, tu vas bien entendu préciser, c'est extrêmement important. Et voilà, les 15 et 16 mai 2021, tout soudain, eh bien, le vote se tient afin d'élire une assemblée constituante chargée de rédiger, et c'est historique, une nouvelle constitution avec, je ne me trompe pas, dans les 9 mois qui suivent. Et c'est, on l'a dit, historique. Et on va parler évidemment de d'où vient cette constitution chilienne, enfin cette nouvelle constitution, en quoi est-ce qu'elle est extrêmement importante parce que elle change le paradigme. Alors, pour commencer, voudrais-tu nous dire, comment est-ce qu'on en est arrivé là? J'ai parlé de cette histoire de métro, mais c'était peut-être juste l'étincelle. C'était un malaise qui était plus profond, j'imagine.
Oui, absolument. L'histoire, elle est en train de s'accélérer parce que un mois avant l'octobre 2019, je pense qu'au niveau de la population chilienne, c'était le pessimisme complet. aucune vision sur l'avenir. Et tout ça, c'était justement une accumulation de choses qui provenaient de plusieurs décennies, d'ailleurs, d'une gouvernance néolibérale qui a été fondée par un pouvoir tyrannique et arbitraire. Je pense que s'il fallait faire vraiment une genèse au stade actuel où on sent qu'il y a un nouvel espoir populaire au Chili, ça serait pas seulement revenir à la dictature, mais revenir même au projet d'unité populaire qui a été initié en 1970 où le premier président marxiste et socialiste a été élu démocratiquement. C'est un aspect qui est assez connu en général par le public progressiste. Et ça fait très longtemps qu'on a de la peine à revenir à cette expérience, sachant ce qui s'est passé par la suite, son échec face aux tentatives de déstabilisation des États-Unis et de l'oligarchie chilienne, l'installation d'une dictature qui a réprimé férocement les organisations populaires et politiques. Pourquoi je reviens à cette question de l'unité populaire, c'est pas vraiment pour faire quelque chose de très folklorique, parce que aujourd'hui on est dans une situation, en tout cas dans la forme, assez différente. Et tant mieux, c'est intéressant, c'est important de ne pas reproduire exactement les mêmes modèles, mais de s'adapter à la situation réelle des peuples et leur forme culturelle de mobilisation, etc. Mais sur le fond, on ne peut pas véritablement faire l'impasse de se rappeler du projet socialiste et de cette tentative de redonner du pouvoir au peuple, de donner la terre à ceux qui la travaillent, aux paysans, de permettre à la classe ouvrière d'organiser, de gérer leur propre entreprise, la nationalisation des ressources naturelles, l'utilisation de ces ressources financières pour une meilleure éducation, pour plus de santé, pour des bénéfices plus importants pour le peuple. Et donc, sur le fond, ce qui est très satisfaisant, je pense, pour une bonne partie des militants révolutionnaires de l'époque, des anciens réfugiés politiques, des anciens prisonniers politiques, et très certainement de leurs familles et de leurs enfants, c'est de savoir que cette expérience lancée par le peuple chilien dans les années 70 n'a pas été lancée même d'ailleurs avant, mais qui a vraiment eu une bonne dynamique au début des années 70, n'a pas été en vain, et que les peuples continueront constamment à chercher un meilleur avenir. Mmh. Sur la question de cette constitution qui a été effectivement qui a été rédigée et qui a été votée en période de dictature, il faut dire qu'en 1980, c'est la date de vote qui a été faite pour approuver cette constitution. C'était un vote totalement frauduleux, parce qu'il n'y avait pas de registre électoral, il n'y avait pas de garantie démocratique. Mais cette constitution, elle a mis toute une agenda, en fait, de la transition démocratique incluse. C'est-à-dire que le plébiscite qui a eu lieu en 1988, le peuple chilien, après des années de mobilisation populaire, y compris en utilisant le droit à la résistance armée, à ce moment-là, en 88, la population a pu voter et puis décider de se passer du dictateur. Ce plébiscite était inscrit déjà dans les mesures transitoires de la constitution de 1980. Et donc cette constitution, ce qu'elle fait, c'est qu'elle installe le scénario de la transition démocratique. Au passage, je dis, cette transition, elle a duré 30 ans, alors que la dictature n'a duré que 17. Hein. Une transition qui dure le double pratiquement de la période qu'il devrait enterrer théoriquement, c'est quand même un peu beaucoup. Et donc, finalement, on a plutôt 50 ans, en fait, de gestion du modèle néolibéral pour... qui s'est fait à partir d'une expérience où on a écrasé en fait le peuple chilien et ses aspirations à construire une société socialiste, une société différente où l'humain est au centre. Et donc, durant ces 50 ans, il y a eu une gouvernance néolibérale, comme je l'ai dit auparavant, où la droite et le centre-gauche se sont partagés le pouvoir, sans jamais remettre en cause le modèle, avec, il faut quand même le reconnaître, des choses, certaines réformes qui ont modifié certaines structures, mais c'était pas des réformes, on va dire, qui étaient de la propre volonté de ce pouvoir néolibéral. C'était des luttes populaires qui ont arraché certaines modifications, par exemple, notamment... en ce qui concerne la loi électorale, qui était une loi qui faisait qu'il y avait un partage entre le centre-gauche et la droite, et qui empêchait les milieux populaires d'avoir une représentation au Parlement. Il y a eu une modification de cette loi électorale qui a été arrachée justement par les luttes populaires, par une volonté de démocratisation. Il y a eu d'autres réformes qui n'ont pas du tout remis en cause le modèle, mais qui ont permis, par exemple, que certains secteurs populaires accèdent à la gratuité de l'éducation universitaire, mais simplement en utilisant les fonds, les impôts pour payer les universités privées. Donc, c'est pas véritablement une véritable gratuité dans le principe. C'est plutôt une façon de s'accommoder pour aider les secteurs les plus vulnérables pour qu'ils accèdent à l'éducation universitaire sans remettre en cause le modèle économique où les privés gagnent de l'argent, en fait, et finalement où l'éducation continue à être un bien de consommation et pas un droit. On pourrait effectivement citer d'autres modifications, mais sur le fond... toutes ces tentatives de modification à la marge, je répète encore une fois, qui ont été obtenues véritablement par la mobilisation des étudiants, par exemple en 2011, elles n'ont pas donné totalement un effet aussi bénéfique, parce que la population chilienne a continué à s'endetter, pour simplement pouvoir manger durant le mois. La question de la santé, la question de la retraite on a renvoyé au calendrier grec certaines modifications qui auraient dû être nécessaires. Et finalement, le projet de réformisme interne du modèle néolibéral a totalement échoué. Et lorsque Sébastien Piñera a été réélu en 2017, avec une certaine surprise, d'une certaine manière, parce qu'il a obtenu les voix d'une augmentation de la participation électorale, c'était finalement presque le chant du cygne, parce que c'était presque donner la dernière opportunité possible à un entrepreneur milliardaire qui, peut-être, avec un peu plus de capacité de gestion financière, aller pouvoir résoudre le problème. Et donc, c'est là, je pense, on arrive, ce modèle arrive au bout, parce que lui-même n'a pas été... les citoyens chiliens se sont rendus compte que finalement, c'était bien beau ce discours, mais il n'a pas changé grand-chose. Et voilà, comme tu l'as aussi dit, il y a une sorte d'étincelle où c'est aussi la goutte qui fait déborder le vase. Cette explosion sociale... d'octobre 2019, qui se transforme en fait en une révolte populaire massive, avec une énorme soutien populaire. Effectivement, les chiffres, ce serait plutôt 3 millions de personnes au niveau de tout le Chili. Et puis, rien qu'à Santiago, 1 million 200 000. C'était une manifestation vraiment énorme, massive. Finalement, c'était une manifestation qui n'avait ni début ni fin, en fait. Les gens sont sortis dans la rue pour se diriger vers la Place à Italia, comme tu as dit, qui aujourd'hui, en fait, est baptisée Place Dignité. Et puis, les gens allaient là-bas et puis finalement, ils n'arrivaient même pas à arriver jusqu'au bout, tellement tellement la ville, finalement, elle a pratiquement collapsé parce que 15% de la population était sortie dehors. Donc, ça, c'est intéressant parce qu'on peut développer peut-être pas mal dans ton émission, William, mais c'était une sorte de plébiscite dans les fêtes. Pour certains historiens chiliens, c'était déjà cette action-là du 25 octobre 2019, c'était déjà un plébiscite en soi. Et effectivement, tu as aussi nommé l'accord du 15 novembre 2019 qui est une tentative, en fait, de remettre tout ce processus dans les rails institutionnels. Ce qu'il faut dire, c'est que cet accord, il n'est pas non plus né de ces jours-là. C'est toute une tentative de la classe politique déjà depuis 2013 pour anticiper un chemin constitutionnel. Donc ça, c'est le grand travail qu'a fait Bachelet. Je le dis pas de manière positive, dans le sens que c'était vraiment une tentative d'empêcher une révolte populaire et pour empêcher aussi la prise de conscience du peuple. Aujourd'hui, le peuple chilien, il comprend qu'en se mobilisant, il peut obtenir des victoires. Et le but du chemin constitutionnel qui était prévu, c'était de dire, bon, on va encore demander à la population chilienne de faire confiance, en fait, à la classe politique. On va vraiment réussir à travers les chemins institutionnels. Maintenant, ça va être possible. Il y a 30 ans, c'était pas le cas, mais maintenant, ça va être possible. On va réussir à faire le changement, mais à travers un accord entre les élites et où la population, vous devez continuer à finalement être dans votre train-train de vie quotidienne et puis laisser ça aux experts, en fait. Donc, tout le chemin, tous les mécanismes de changement constitutionnel avaient déjà été tentés auparavant. Et finalement, ça n'a pas, avec le gouvernement de Bachelet, ça n'a pas abouti, mais ça a ressurgi. Ça a été une carte, en fait, que le pouvoir a pu utiliser en novembre 2019 pour tenter d'étouffer, finalement, la mobilisation populaire. Ce qui est intéressant ici, c'est que toute cette critique qu'on peut faire des pièges qui sont posés par l'oligarchie chilienne, finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une possibilité de déborder son approche aussi en participant depuis l'intérieur. C'était ça l'enjeu finalement. Donc le 25 octobre 2020, il y a le plébiscite, comme tu as dit, où 80% de la population elle a soutenu à la fois la volonté d'une nouvelle constitution et le fait qu'elle soit rédigée par une nouvelle instance qui soit élue à 100% par le peuple et pas par le parlement, pas par le congrès, pas par les partis politiques. Ce qui est intéressant, une donnée intéressante entre ce plébiscite d'octobre dernier et le résultat qu'on obtient ce dernier week-end, c'est que ce rapport se maintient. 80 d'un côté, 80 pour un changement constitutionnel et 20 contre. Ce qui s'est passé, c'est que comme le gouvernement de Sébastien Piñera n'a pas voulu vraiment prendre une position favorable à ce changement constitutionnel et a obligé toute la droite à s'aligner pour rejeter ce plébiscite d'octobre dernier, ils n'avaient pas de légitimité pour envoyer des constituants pour rédiger cette nouvelle constitution. Finalement, c'est ça qui a été confirmé au niveau électoral dans ce dernier scrutin. La deuxième chose qui était beaucoup plus surprenante, c'est de savoir, est-ce que les listes indépendantes, est-ce qu'elles vont atteindre le seuil électoral suffisant pour envoyer des gens à la convention constitutionnelle. C'était ça la, la c'était ça a été une surprise d'une certaine manière parce que on pouvait pressentir qu'elle ferait un bon score, mais est-ce que ça serait suffisant pour envoyer des élus? Et c'est ça qui a été obtenu. Et du coup, le processus prévu par le pouvoir a pu être débordé avec cette participation citoyenne. Et aujourd'hui, l'enjeu, finalement, c'est de savoir, et je pense qu'il y a toutes les conditions pour, premièrement, faire sauter la condition d'un quorum de 2/3 pour pouvoir approuver cette nouvelle constitution. On va voir ce qui va se passer parce que tout est mouvant actuellement, mais toutes les conditions sont là pour que cette question soit elle n'ait plus de sens, soit qu'officiellement les règlements de la convention constituante puissent changer ce type de règles. Et le deuxième enjeu, c'est que le peuple puisse continuer à participer des travaux de cette convention constituante et d'une certaine manière la faire approcher le plus possible d'une véritable assemblée constituante souveraine et démocratique et participative avec des assemblées populaires dans tous les quartiers, dans toutes les régions et que les demandes qui sont posées par la base puissent être portées à la convention constituante par notamment les listes indépendantes qui ont le lien le plus légitime pour faire ce travail.
Alors, ce mouvement social, cette révolte de rue a porté, évidemment, ses fruits avec la convention constituante, mais cela était-ce unanime? Est-ce que la très grande majorité des personnes en lutte appelait-elle à la convention constituante? Est-ce que ça a fini par faire consensus? Ou est-ce que tout de même, il est resté des personnes qui ont dit non? C'est pas suffisant, on continue, on garde la rue. Ça, c'est le premier volet de la question. Puis le deuxième volet, ce serait après, effectivement, de dire oui, effectivement, cette convention constituante, elle est singulière par beaucoup de points, et notamment par sa base paritaire, par la place des femmes, par les peuples autochtones qui vont y siéger, notamment les Mapuche et Mepaka. Et j'aimerais voilà que tu nous éclaires par rapport à la constitution de la convention constituante et de ses 155 constituantes et constituants. Voilà, donc le premier volet, c'est la rue. Est-ce que des gens qui étaient en lutte se sont-ils sentis exclus peut-être de ça, ou voilà, ont-ils eu d'autres options à proposer? Et puis ensuite, la convention, de quoi est-elle faite?
Oui. Moi, je pense que il y a un espoir qui est assez unanime, mais qui est avec conscience et avec un peu de prudence. Parce qu'en fait, on est en train de vivre les événements. On n'est pas en train de faire l'histoire, disons. Aujourd'hui, admettons que on étudie la question de la Révolution française ou de la Révolution d'octobre, on porte un regard avec énormément de recul historique. Donc, on peut voir tous ces, ou même ceux de la Commune de Paris, on peut voir tous ces événements avec finalement en pensant qu'il y a beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'ébullition et tout ça. Mais comment est-ce que ça a été vraiment vécu par les personnes à l'époque? Je pense que c'est une question d'historien qui serait intéressante qu'elle soit abordée aussi de cette manière. Donc là, quand on vit les événements, comment est-ce qu'on peut vraiment décrire, est-ce qu'on a de l'espoir ou pas? En fait, on passe par absolument toutes les étapes. Moi, je crois s'il fallait le résumer, je dirais qu'il y a un espoir qui est avec conscience et en sachant qu'il y a plein de pièges qui sont possibles. Alors, à partir de cette réflexion, il y a des personnes qui ont décidé de participer à cette convention à l'élection de cette convention constituante. Et il y a des gens qui ont décidé de ne pas participer. Mais je pense qu'ils ont quand même des points communs. D'une certaine manière, il n'y a peut-être pas forcément. C'est ça qui est probablement nouveau. On a un véritable mouvement populaire qui est assez indépendant et il n'y a pas une vision stratégique qui soit encore construite et commune et au clair pour absolument tout le monde. il y a au fond, ce qu'on a aujourd'hui, c'est la Convention constituante. On a un secteur de droite qui a obtenu grosso modo 20%. On a la centre-gauche qui a perdu sa deuxième place par rapport à la classe politique. Il est passé troisième. Il a été dépassé par le bloc de gauche, par le pôle de gauche composé par le Parti communiste et le Frente Amplio. Ça, c'est une donnée intéressante par rapport au rapport de force, on va dire, traditionnel. Finalement, ces trois secteurs représentent chacun un tiers de ce qu'on peut appeler la classe politique, qui est représentée dans les parlements, qui est représentée au niveau municipal, etc. Et puis, face à ça, il y a tout un autre bloc qui est représenté par on pourrait appeler ça les masses sans parti, et qui ont également certaines différences, mais dans laquelle la force la plus importante est portée par une liste du peuple, elle s'appelle Liste du peuple, et elle a un contenu très radical si on va voir le programme qui est proposé. Radical dans le fond et dans la forme. Par exemple, sur trois points. Premièrement, ils sont assez clairement pour la décentralisation de l'État. Le Chili est un État qui est très centralisé. La moitié de la population est dans la capitale, alors que le territoire est très long. Donc ça, c'est déjà un problème. Donc il y a une tentative de décentralisation de l'État pour apporter aussi plus de ressources économiques dans les régions et plus d'autonomie, d'une certaine manière, dans la gestion de ces ressources. Ça va être un combat très difficile. Hein. Si je pose le sujet, c'est pas pour dire que c'est déjà acquis. Mais dans ce cadre-là, il y aura aussi peut-être l'avancée d'une autonomie pour les peuples autochtones. Il y a le sujet de l'État plurinational. Ça, il faudra voir vraiment. Il faudrait voir s'il y a vraiment deux tiers des constituants qui sont prêts à aller dans ce sens-là. De toute façon, il va certainement y avoir certaines nuances dans l'interprétation de ce que signifie un État plurinational, mais ça va apporter très certainement plus de droits aux peuples autochtones pour qu'ils puissent décider de manière autonome, autodéterminée, ce qu'ils font des ressources naturelles de leur territoire, la forme d'organisation politique aussi et culturelle, qu'elle soit respectée. Donc ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est, comme tu l'as mentionné, la question des retraites par capitalisation. C'est un système qui est vraiment ressenti comme une grosse injustice par les Chiliens. C'est peut-être que les Chiliens sont peut-être pas très au clair sur les mécanismes en fait qui sont pernicieux de ce système de capitalisation, mais ils en connaissent les effets et ils savent qu'il y a des personnes qui gagnent de l'argent sur leur retraite, et donc ça, c'est un point où en tout cas la Liste du peuple est radicalement pour changer ce système. Et puis le troisième point aussi qui est pas mal mis en avant, c'est la question des traités de libre-échange et notamment le traité transpacifique, où ils ont aussi un rejet total. Donc, cette Liste du peuple dans le phénomène des indépendants, c'est en fait le phénomène des mouvements sociaux, surtout avec les dirigeants de base. Je tiens à préciser que les dirigeants des mouvements sociaux qui ont une visibilité nationale n'ont pas réussi à être élus à Santiago. Ils ont été eux-mêmes débordés par des listes où il y a aussi des mouvements sociaux et aussi des dirigeants, mais qui sont à un niveau plus, on va dire, régional, territorial. C'est une donnée aussi intéressante à discuter. Et puis, comme la question que tu m'as posée, c'est est-ce que des gens ont voulu d'une certaine manière ne pas participer à ce processus et dire qu'il faut garder la rue, eh bien effectivement c'est une composante qui est importante, et elle est d'autant plus importante parce que pour faire en sorte que cette convention constituante aille le plus loin possible, il faudra nécessairement une participation beaucoup plus large. 155 personnes pour rédiger la nouvelle constitution, c'est pas suffisant pour que véritablement ce processus il soit vécu comme quelque chose de très participatif et qui engage aussi tous les citoyens à la construction de cette société qui sera déterminée par cette charte fondamentale d'aujourd'hui. Donc, ce qui, à mon avis, est vraiment intéressant, c'est qu'il y a la possibilité d'une articulation entre les secteurs indépendants qui sont les plus radicaux, qui sont à l'intérieur de la Convention constituante et qui vont pouvoir relayer, utiliser la Convention constituante comme une tribune des demandes sociales et populaires, et le mouvement organisé à l'extérieur qui a maintenu sa légitimité parce qu'elle elle pourra dire qu'elle n'est pas tenue par les accords qui sont faits au sommet, et faire du coup un effet de pression populaire pour obtenir des véritables changements dans cette nouvelle constitution. Donc, pour moi, si je devais le définir dans une catégorie politique plus traditionnelle, c'est qu'il y a une combinaison de différentes formes de lutte qui est possible. Maintenant, la question, c'est de savoir est-ce que ces alliances vont pouvoir se construire entre le secteur qui est en dehors de la Convention constituante, mais qui veut participer à un véritable processus de souveraineté populaire, les secteurs indépendants qui sont à l'intérieur et qui vont porter ces revendications, et puis voir aussi comment s'articule le lien avec le bloc de gauche. Tous ces points ne sont pas évidents, ça va être très mouvant. Il ne faut pas être naïf par rapport à ça. Déjà durant la semaine, le représentant de la liste du peuple a dit « Nous, on ne parle pas aux partis politiques, on parle au peuple et on ne parlera pas aux partis politiques tant qu'on ne libère pas les prisonniers de la révolte. » Donc, ce qui est intéressant, c'est que déjà maintenant, alors qu'elle n'est pas encore installée, cette convention constituante, la liste du peuple, elle maintient sa ligne de manière conséquente et elle ne va pas fermer les yeux par rapport aux graves violations des droits humains, au fait qu'il n'y a toujours pas véritablement de jugement des responsables politiques et qu'il y a toujours des personnes qui sont en train de souffrir de la répression et qui sont notamment soit encore en prison, soit même s'ils sont à domicile, face à un processus de criminalisation et de procédure judiciaire.
Donc voilà, cette convention constituante, eh bien, elle est désormais élue, on l'a dit, 155 personnes, sur une base paritaire. Donc la place des femmes est acquise. Également, les peuples autochtones sont représentés. Voilà, quel est l'agenda? On sait que c'est en 9 mois, si j'ai bien compris, en 9 mois que ce processus va devoir se tenir. Y a-t-il des moments clés, des dates charnières sur lesquelles eh bien, on peut s'appuyer? Ça, c'est la première partie de la question. La deuxième partie, c'est est-ce qu'on sait si d'ores et déjà on va s'appuyer sur des modèles ou sur des vécus révolutionnaires, je ne sais pas, empruntés à des philosophes, empruntés à des pratiques lointaines ou plus proches, des éléments pour, comment dire, façonner cette nouvelle constitution dont on rappelle que voilà, elle enterre de facto l'ancienne constitution avec tout ce passé encore en lien avec Pinochet, et c'est vraiment quelque chose de tout à fait historique et qui pourrait sonner la cloche d'un réel renouveau.
Oui, je pense que il y a différentes idées qui surgissent comme ça par rapport à des nouvelles formes d'organisation politique. Par exemple, la question de comment est-ce qu'on appelle ça, l'élection, il y a une élection, une forme d'élection au hasard.
Ah oui, à partir du sort.
Enfin, voilà, exactement. Il y a des idées comme ça de tirage au sort, ou il y a des idées aussi d'introduire l'initiative populaire, citoyenne, mm-hmm. comme on a par exemple ici. Mais c'est un peu des idées qui circulent Je pense que ça va pas mal être relayé par une partie des listes d'indépendants, mais ce n'est pas très au clair qui vraiment, justement, porte véritablement ces idées-là et quelles sont leur origine philosophique, etc. Parce que, comme je disais, comme il y a beaucoup de prudence, c'est presque comme si, bon, il y a une agenda qui est au clair, mais c'est comme si chaque étape, fallait vraiment passer étape par étape, sans forcément tout anticiper, parce qu'on ne sait pas si la prochaine étape va vraiment arriver. Mm-hmm. Donc c'est quelque chose qui va maintenant, à partir de l'installation de la Convention constituante, je pense à peu près dans un mois, tout ça, ça va surgir à fond. Quoi. Ça, maintenant, toutes les idées vont foisonner. J'ai des fois quelques doutes sur certaines de ces idées, mais je pense qu'il y a un point qui est vraiment important. Si cette liste des indépendants a réussi à surgir dans ce processus, il faudra véritablement que ce secteur, notamment des mouvements sociaux, se pose la question, comment faire pour que notre secteur continue à être représenté dans le prochain système et qu'on ne revienne pas nécessairement à une démocratie des grands partis politiques ou des grosses coalitions. Cette constituante, à mon avis, va pas finir avec ce modèle des partis, mais la question, c'est comment faire pour donner plus de force et plus de poids à ces secteurs-là et qu'ils puissent intervenir et qu'ils puissent avoir plus de droits, soit pour participer dans les différentes instances, soit justement à travers des projets d'initiative de loi, etc. Il faut vraiment qu'ils aient une réflexion de comment ce nouveau phénomène va être pérennisé et perdurer avec cette nouvelle constitution. Je voudrais revenir peut-être aussi sur un point que tu abordes, qu'on n'a pas pu trop détailler, sur la question de la base paritaire. Je pense que il faut vraiment que les mouvements féministes et les mouvements qui s'intéressent à ces questions-là se penchent sérieusement sur ce mécanisme, parce que je pense qu'il y a il faut contrebalancer cette idée avec ce qui s'est passé dans cette convention constituante. Il y a quelque chose d'intéressant. Les électeurs ont plébiscité les femmes dans ce processus, notamment dans les peuples autochtones. Les peuples autochtones avaient droit à 17 sièges. 13 personnes sur les 17 qui ont été élues sont des femmes. Sauf que le mécanisme paritaire a fait en sorte que 4 de ces femmes renoncent à leur siège et que ce soit leur suppléant masculin qui prenne leur place. Et donc, il faut quand même essayer de réfléchir à ça, parce que, au fond, le mécanisme de parité, c'est de dire 50-50, et quant à un processus vraiment populaire, massif, ce mécanisme, ce qu'il peut faire, c'est freiner la participation. Je trouve que c'est quand même pas un détail, parce que c'est dommage pour les 4 femmes des peuples autochtones qui ont véritablement été élus parce qu'il y a eu une volonté des électeurs indigènes, il y a eu une volonté des listes, des candidatures indigènes de mettre des femmes en avant et qu'elles ne vont pas pouvoir vraiment faire leur travail de représentation alors qu'elles ont toutes les capacités pour le faire. C'est peut-être une question théorique et certains vont dire « Ah oui, mais c'est pas si important parce que finalement, à la fin, il y a 50% ». Mais quand même, je pense qu'il ne faut pas fausser la leçon de ce processus. Ce n'est pas le mécanisme paritaire qui aura réussi, en tout cas pour le cas du Chili, dans ce contexte très précis, à obtenir une parité. Ce qui a permis la parité, c'est évidemment tout un débat politique qui a eu lieu durant ces 2 dernières années sur la participation des femmes et une volonté de la population, une volonté des personnes qui présentent des listes et des partis politiques et une volonté aussi des femmes elles-mêmes de prendre confiance et de pouvoir se présenter et en espérant avoir une possibilité de d'avoir un travail de représentation. Et par rapport au siège de l'élection en général, ça s'est un peu passé comme ça aussi. Il y a certains, globalement, ce que le peuple chilien avait voté était paritaire. Mais dans certains cas, je dis à peu près, hein, avec certains chiffres un peu approximatifs, mais disons 6 à 8 femmes qui ont dû céder leur poste à des hommes, et de l'autre côté, 6 à 8 hommes qui ont dû céder leur place à des femmes. Donc, à la marge, ça a été un peu injuste pour ceux qui ont eu des meilleurs scores. Mais de toute façon, sans ce mécanisme, c'est ça qui me semble vraiment intéressant à souligner, les Chiliens avaient décidé déjà d'une plus importante participation des femmes. Sur les peuples autochtones, je pense que ce qui est intéressant, ce qui sera vraiment un combat important, c'est la question de l'État, d'un État plurinational. Ça veut dire, en fait, reconnaître l'existence de nations originaires au Chili, avec tous les droits que ça signifie, c'est-à-dire droit d'autonomie, d'autodétermination, une autodétermination certainement limitée, mais quand même autodétermination. Je pense qu'il y a aussi un point intéressant dans la participation des peuples autochtones, c'est qu'en 2016, il y avait eu un processus constituant consultatif, aussi dans le gouvernement de Bachelet, et il y avait à peu près approximativement 17 000 personnes qui avaient participé. Dans ce scrutin, il y a eu 250 000. Donc il y a quantitativement vraiment une hausse de la participation, ce qui est positif, surtout certainement des communautés, véritablement des communautés indigènes. C'est les communautés indigènes qui avaient le droit à certaines conditions de présenter des candidats. Ça ne pouvait pas être simplement une autoproclamation. Mais ce qu'il faut aussi reconnaître, c'est que par rapport à tout le registre électoral, les peuples autochtones les plus nombreux, que sont le Mapuche, le peuple Aymara et le peuple Diaguita, hein, la participation est autour des 20%. Donc quantitativement, c'est quand même une hausse de la participation, mais vis-à-vis de tout le registre électoral, y a certainement encore plus de participation à avoir dans l'avenir. Peut-être que tu pourrais me répéter la question que tu as posée au début, parce que j'ai un petit peu...
Alors,
compléter, quoi, s'il y a quelque chose que tu penses que j'ai pas trop répondu.
Non, alors écoute, pour le moment, c'est tout à fait clair, en tout cas, tout ce que tu dis, et puis on va justement, ça va me permettre d'avancer un petit peu. Alors, tu l'as dit, donc voilà, maintenant c'est 9 mois qui vont être bouillonnants, puisque, comme tu l'as dit, c'est un questionnement permanent, chemin faisant, qui va essayer de recouvrir, eh bien voilà, les aspirations de toutes et tous sorties de cette lutte dont on rappelle qu'elle a été extrêmement coûteuse humainement, puisque voilà, de nombreux morts, de nombreux blessés ont été décomptés. Alors voilà, pendant ces 9 mois, qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'était le sens de ma question tout à l'heure. C'était, va-t-il y avoir des moments clés, par exemple, voilà, tous les 3 mois, eh bien, une consultation, disons, informelle se tiendrait, ou va-t-il y avoir va-t-on s'inspirer d'expériences aux antipodes, voilà, je pense, par exemple, qui sait, au Rojava, je pense aux apatistes, pourquoi pas, finalement, comment est-ce qu'on pourrait nourrir et comment va-t-on nourrir la réflexion qui, tout au long de ces 9 mois, va accompagner les gens? Donc, c'était effectivement le sens de la question, et puis pour en terminer, la question qui venait après, c'était de se dire, bon, après ces 9 mois, que va-t-il se passer? Est-ce qu'il va falloir la ratifier? Donc, de nouveau, des élections, une votation, des élections générales peut-être? Et est-ce que cela pourrait-il sanctionner le gouvernement Piñera qui pourrait être balayé à ce moment-là, contraint à la démission? Et puis, pourquoi pas changer fondamentalement de forme de gouvernance? Est-ce qu'on pourrait imaginer que de cette constituante, eh bien, sorte un État nouveau, populaire, différent, utopiste, que sais-je?
Oui, voilà, maintenant je me rappelle de la question que tu avais posée. C'est l'agenda, quoi.
Oui.
Moi, je crois que ce qui est plus, ce qui serait raisonnable de penser, c'est que, à côté de la Convention constituante, les mouvements sociaux, les secteurs populaires, initient de nouveau un processus de assemblée populaire. Au Chili, au Chili ou en Amérique latine, ça s'appelle cabildo. C'est des moments de discussion où les gens peuvent participer et définir des demandes. No normalement, c'est dans la perspective de pas seulement définir des demandes à des représentants, mais c'est aussi de pouvoir eux-mêmes les appliquer. Je ne crois pas qu'on en soit là, même si il y aura vraiment une volonté de pousser ce processus jusqu'au bout de cette logique. Mais en tout cas, l'idée qu'il y ait des assemblées populaires autoconvoquées, liées à des indépendants aussi, à des gens sans parti au sein de la Convention constituante, c'est quelque chose qui va certainement arriver parce qu'il y a déjà eu, durant la révolte populaire de 2019, il y a déjà eu ce phénomène. Et c'est d'ailleurs ce phénomène qui a fait que la révolte a duré et que le pouvoir a dû, à un moment donné, essayer de tenter une sortie institutionnelle. Ça, c'est pour la première chose. Le deuxième point, effectivement, si on calcule les 9 mois, c'est grosso modo, ça je n'en ai pas la certitude parce que comme le processus, il a été à chaque fois repoussé à cause de la pandémie. Mais grosso modo, ça serait jusqu'à les 9 mois, c'est jusqu'à février ou mars prochain. Et février ou mars prochain, c'est le moment où le nouveau président ou la nouvelle présidente va prendre possession. Donc en fait, tout ce processus, à la fois, il y aura probablement un processus des mouvements sociaux populaires, et à côté, il y aura tout un processus institutionnel pour élire le prochain président. Et ça va commencer par les primaires présidentielles. Ça, c'est un truc qui a déjà commencé cette semaine, parce qu'aujourd'hui, c'était non, pas aujourd'hui, hier, c'était le dernier délai pour inscrire les primaires présidentielles légales. Donc là, la course présidentielle commence hyper rapidement. En août, il me semble, fin août, ça sera le dépôt des candidats présidentiels définitifs. Et puis, ça sera ensuite novembre, le premier tour, avec les législatives et présidentielles. Et puis, décembre, je pense, ça sera le deuxième tour. Donc, il y aura ces deux processus, un processus institutionnel pour le prochain président et un processus vraiment populaire de base pour pousser le plus loin possible les demandes sociales. Personnellement, j'ai assez confiance dans le processus constituant. Je pense que le plébiscite de sortie, comme on l'appelle, c'est le plébiscite où on va appeler le corps électoral à décider si oui ou non on approuve la nouvelle constitution. Je pense que, à part s'il y a un accident de l'histoire qui serait vraiment négatif pour tout le monde, il faudrait, et je pense qu'il s'achemine vraiment, il y a une dynamique vraiment pour que ça soit une victoire. Il y a un petit détail, c'est qu'il y a une possibilité de le prolonger de 3 mois. Donc peut-être les 9 mois peuvent devenir 12 mois. Ce qui est intéressant, c'est que, bon, à mon avis, il y aura probablement une prolongation parce que personne au Chili voudra que ce soit Sébastien Piñera qui signe cette nouvelle constitution. Et lui va peut-être tenter de rester dans l'histoire et obtenir cette petite victoire, mais je pense qu'il ne va pas l'obtenir. Donc ça sera certainement un plébiscite qui aurait peut-être lieu après la prise de possession du nouveau président. Mais dans le processus de présidentiel, même si la gauche, elle est bien placée après ce week-end, je pense que le scénario est vraiment très ouvert. Ça serait vraiment difficile de faire un pronostic sur le candidat qui pourra initier ce nouveau cycle. Maintenant, sur la nature de ce nouvel État, je crois que comme il y a le risque que la droite le remporte aussi dans cette présidentielle, je crois que cette nouvelle constitution devra mettre en place des mécanismes de contre-pouvoir. Je pense qu'on est on n'est pas encore dans une situation où il y a un nouvel État et puis que cet État est véritablement un État de tout le peuple et qu'il y a une révolution sociale qui a vraiment installé un nouvel État. Je pense qu'on n'est pas dans cette étape. Je pense qu'on est plutôt dans une étape où il faut qu'il y ait des contre-pouvoirs pour que le peuple y puisse défendre ses conquêtes sans être tué, comme c'est arrivé en 2019, ou sans qu'il y ait des violations de droits humains évidentes et dans lesquelles il n'y a pas d'accès à la justice pour faire justice, justement. Donc, je pense que c'est ça l'enjeu. Comment faire pour que le mouvement ouvrier populaire il ait des droits, des contre-pouvoirs et qu'il puisse arracher de nouvelles conquêtes à un gouvernement qui sera toujours un gouvernement qui va gérer le capitalisme dans sa version de droite, dans sa version de centre-gauche ou dans sa version de gauche. Si vraiment on veut pousser si après cette étape constituante, on veut vraiment encore pousser plus en avant la possibilité de réaliser une nouvelle société, il faudra le faire à travers des nouvelles luttes. Je suis assez convaincu de ça.
Ouais. Donc pour toi, il s'agit là d'une étape, certes historique et fondamentale, essentielle, mais d'une étape quand même.
Oui, alors sans vouloir non plus tenter de freiner la signification de ce mouvement, de cette dynamique populaire, je pense qu'on même à niveau des débats qu'on a pu entendre jusqu'à maintenant, le maximum qui est proposé, y compris par la gauche classique, le Parti communiste, le Front Ample, c'est de dire il faut qu'il y ait un État qui soit un peu plus régulateur du marché, que qui ait certains droits sociaux et qui soient plus des biens de consommation. Mais il n'y a pas encore un parti politique qui remette, il y a des petits partis qui ont une vision révolutionnaire, mais dans les grands partis de la gauche, il n'y a pas une mise en cause du système capitaliste et de la légitimité de la propriété des moyens de production, par exemple, etc. Ça va être un grand combat de tenter de nationaliser, par exemple, de nouveau des ressources naturelles. C'est un combat qu'il faut mener. Si j'essaie de tenter d'expliquer, à mon avis, en tout cas, dans quel contexte on se situe, c'est pas pour dire qu'il faut pas mener ces combats, c'est pour dire il faut mener ces combats en sachant qu'on est dans un contexte où on n'est pas encore dans une période révolutionnaire, à mon avis. Ouais. Quand on parle de révolution sociale, où on va vraiment changer les rapports sociaux, les rapports dans la famille, les rapports dans le travail, toutes les rapports qu'on a dans la vie et qui sont aujourd'hui dominés par le système capitaliste.
Ouais. Je te remercie beaucoup, Esteban. On arrive doucement au terme de cet entretien. Encore deux petites questions, si tu es OK avec ça.
Oui.
Alors, écoute, on y va. Effectivement, peut-on dire que une des préoccupations va être de se distancier des influences extérieures? Voilà, on sait bien l'extractivisme, on sait bien le poids des multinationales, on sait bien le passé avec les Chicago Boys, par exemple. Alors, est-ce qu'un des enjeux, et je crois que tu l'as ébauché, c'est de recouvrer une forme de, comment dire, d'espace libre des influences extérieures, qu'elles soient de grands États ou de multinationales, donc plus opaques. Ça, c'est le premier volet. Et puis, qu'en est-il de, parce que tu as cité le mot contre-pouvoir et j'y suis effectivement très sensible, qu'en est-il, voilà, des médias? Parce que on observe que la désinformation, et c'est vrai que si on revient à ce gouvernement d'unité populaire à toute la période de Salvador Allende, on sait le poids qu'ont pu avoir les médias et vis-à-vis de l'opinion publique qui, à un moment donné, ben voilà, manipulé, a pris fait et cause, mais disons que ça a accompagné la répression et ça a consolidé d'une certaine manière cette dictature dont tu as bien dit qu'elle a duré au-delà de qu'elle a survécu à son dictateur. Alors voilà les deux questions. Est-ce que un des enjeux, c'est également de se distancier de ces influences extérieures, et l'autre enjeu, c'est parmi les contre-pouvoirs, peut-être une attention particulière sera-t-elle menée sur les médias?
Oui. Sur la question internationale, je pense que j'avais un peu évoqué lors de la dernière émission sur la Colombie, mais je trouve que c'est intéressant d'un point de vue géopolitique voir que les peuples de la partie de la côte pacifique de l'Amérique du Sud sont dans des processus justement de révolte populaire d'une certaine manière. Le Chili et la Colombie, d'une part, où il y a vraiment une explosion sociale. Et puis, le Pérou, c'est une situation peut-être qui n'a pas encore débordé, mais c'est une situation où la classe politique, le pouvoir, n'a plus la capacité de gouverner. Et il y a eu, aux dernières élections au Pérou, 20 candidats. Donc, il y a une dispersion complète des différents partis institutionnels qui veulent essayer d'obtenir le pouvoir pour le gérer, mais il n'y a pas une en tout cas dans le premier tour il n'y avait pas une alternative claire pour aussi faire les transformations qui sont demandées par les mouvements populaires au Pérou. Je pense que cette élection qu'on a eue ce dernier week-end va avoir une influence dans le deuxième tour des élections au Pérou, parce que c'est un exemple de la possibilité de faire une convention constituante, même avec, on va dire, quelques pièges qui sont assez connus et clairs, mais que c'est un processus qui peut être assez ordonné, qui est reconnu, il est reconnu un peu par tous les secteurs politiques. Il y a eu la possibilité d'élire des gens qui ne font pas partie des grandes coalitions de pouvoir. Donc, ça peut être un bon exemple pour le peuple péruvien de voir qu'il est possible de faire ce chemin, d'autant plus que le candidat de gauche, Pedro Castillo, propose de faire une assemblée constituante. Donc, au niveau de la tentative de sortir de certaines influences extérieures, bah, notamment des États-Unis, il y a un aspect intéressant de voir ces trois peuples se mobiliser pour sortir finalement du carcan néolibéral, du carcan des traités de libre-échange, et tout en plus en sachant qu'au Pérou, les régions rurales, qui sont celles qui sont aussi le plus affectées par tous ces traités de libre-échange, parce qu'ils appauvrissent encore plus les paysans, notamment. Donc, c'est ces régions rurales qui ont pratiquement plébiscité au premier tour le candidat Pedro Castillo. Donc, au niveau géopolitique, c'est intéressant ça. Pour se débarrasser aussi de l'influence des États-Unis notamment, ce qui est intéressant, qu'on n'a peut-être pas pu évoquer parce qu'on n'a pas trop parlé de ce qui s'est passé avec les partis traditionnels, mais il faut dire que la démocratie chrétienne, dans l'élection constituante, s'est complètement effondrée. Il y a un seul membre du PDC qui a été élu dans cette constituante de 150 personnes, plus un autre qui est en fait un indépendant du Parti démocrate chrétien. Donc, la démocratie chrétienne s'est complètement effondrée, même si dans les autres élections qui ont eu en même temps les municipales et les élections de gouverneurs, ça n'a pas été aussi catastrophique. Mais quand même, être élu dans la convention constituante, c'est être élu, c'est être positionné dans le pays de l'avenir, quoi. Et ils y sont pas. L'autre parti qui était aussi très important dans la transition démocratique, c'était le PPD, Parti pour la démocratie. Ce parti a aussi perdu beaucoup de plumes durant ce processus. Donc, ces partis-là, traditionnellement, c'est aussi à travers ces partis-là que s'exerçait une influence impérialiste. La démocratie chrétienne, c'est quand même le parti qui s'est positionné pour le coup d'État également en 73. C'est le parti qui a fait le pacte avec avec les États-Unis là, pour éjecter le dictateur Pinochet, mais se mettre eux-mêmes à sa place pour gérer le système. Donc ça, c'est déjà deux éléments, je pense, importants dans la dans une tentative de se débarrasser des influences impérialistes.
Ouais.
Mais je pense qu'il y aura certainement, je pense, j'ai aucun doute qu'au Pentagone et à la CIA, ils sont en train d'observer avec énormément de rigorosité ce qui est en train de se passer au Chili. Donc, ils sont certainement préparés quelque chose. Et puis, le deuxième point sur les médias, il y a quelque chose qui est assez intéressant parce que c'est que au Chili, au niveau électoral, il y a tout un mécanisme institutionnel pour que chaque liste puisse présenter des petits clips de propagande électorale. C'est quelque chose qui a aussi eu lieu durant le plébiscite en 88. Hein, et ça a été un des espaces un peu de liberté pour présenter son programme, mais d'une manière tout à fait libre, quoi. Et bon, en 88, c'était limite parce qu'il fallait respecter certaines règles, mais on voyait une forme de subversion déjà dans ces clips électoraux. Et puis on a eu également ce phénomène durant ces élections où la liste du peuple a vraiment beaucoup fait parler d'elle en mettant des propos assez polémiques, hein. Contre le président Sébastien Piñera. Et c'est sans doute ça aussi qui a permis que cette liste, qui avait pratiquement aucun moyen financier et qui a fait vraiment une campagne populaire, quoi, un peu amateur. Moi, je suis allé voir le site, c'est assez drôle. Il y a certains candidats, ils ont même pas encore, il y a même pas leur biographie, mais en faisant une campagne avec la base, et puis avec notamment ces clips qui sont apparus, ils ont réussi quand même à obtenir une certaine adhésion populaire, ce qui est vraiment positif. Mais c'est vrai que ça reste très peu par rapport à la question des médias. Comme tu dis, moi je suis absolument d'accord qu'il y a une nécessité de mettre à plat en fait ce système médiatique qui tente encore de survivre, qui tente encore d'atteindre les masses populaires, et puis en tentant d'introduire une forme d'aliénation, justement, pour que les gens les acceptent la façon dont ils vivent, qu'ils ne la remettent pas en cause. Mais tout ça a réussi, dans cette date mesure, avec des différentes tactiques, à être rompu. Mais il y a encore beaucoup de travail. Je pense que ça passe nécessairement par des choses comme on fait avec Libre Radio, quoi. Il y a aussi des phénomènes de radio libre au Chili, et puis sans doute les gens, ils sont en attente aussi d'avoir des nouveaux contenus, d'avoir des nouvelles personnes qui peuvent apporter leur opinion, et puis qui sont pas nécessairement des experts patentés par les grands médias.
Ouais. En tout cas, on va suivre bien attentivement ce processus, comme tu l'as dit, d'énormes enjeux au Chili, mais dans les pays voisins également en cours. Bien entendu que le regard des États-Unis, il va pas se détourner. On sait le passé colonial, hein, clairement, que les États-Unis ont dans cette région-là. On parlait l'autre jour de doctrine Monroe. Alors oui, on est en train, on la quitte, mais il faut vraiment la quitter pour de vrai. Et être attentif à ce que ce processus soit fait jusqu'au bout et définitivement d'une certaine manière. Ce que je te propose, c'est qu'on arrête là pour aujourd'hui. On est à une heure d'interview. et que l'on se revoie, que l'on se réentende continuellement pendant voilà ce processus à des moments clés où justement ben ce serait intéressant que tu commentes depuis ta position eh bien le processus où en est-il, comment est-ce que ça va, avec évidemment ses aspirations, avec évidemment ses défis, avec également ses moments d'hésitation, parce que comme on l'a dit, c'est un processus de questionnement perpétuel, et c'est ça également qui est intéressant. Mais je pense que ce serait bien d'arriver à le suivre de manière un petit peu régulière comme ça, et puis de mettre en valeur les travaux qui sont menés. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Oui, absolument. Franchement, si on pouvait compter sur cet espace pour faire un point mensuel, peut-être on pourrait aussi inviter d'autres personnes qui pourraient donner leur point de vue, soit au Chili, soit aussi, ça serait vraiment génial.
Ouais. Alors on va faire ça.
Ouais.
Bon, écoute, en tout cas, je te remercie beaucoup. On le rappelle, Esteban Muñoz, tu es donc coordinateur de Nouvelle Génération Chili, à l'association ici à Genève, membre du Parti communiste genevois. Est-ce que tu voudrais peut-être rappeler également comment est-ce que l'on peut vous solliciter, en tout cas vous trouver sur Internet et sur les réseaux sociaux?
Oui, alors on a un blog qui s'appelle ngchili.wordpress.com. On met pas mal d'informations là-dedans. On peut s'inscrire sur notre newsletter. C'est assez facile. On peut même utiliser le formulaire de contact pour nous écrire à travers là. On a un Facebook aussi. Je crois que c'est /generation.chili. On publie pas mal de trucs. On essaie de publier surtout des choses en français. Mais des fois, on met aussi des choses en espagnol. Et puis, si les gens veulent, par exemple, suivre aussi notre chaîne Telegram, ils peuvent nous contacter ou... Attends, je vais peut-être vite voir.
Oui, regarde tranquillement.
Parce qu'il me semble que l'adresse, je vais vite donner l'adresse.
Quoi qu'il en soit, on mettra évidemment les liens au libellé du podcast, ça c'est sûr. Mais effectivement, si tu as...
C'est une chaîne publique de Telegram. Le lien, c'est t.me/ngchili. Okay. Et là, on met régulièrement à jour nos billets de blog.
Très bien. Bon, écoute, je te remercie beaucoup pour toutes ces informations. Et puis, on va rester attentif à ce processus en espérant qu'effectivement... mais on a tout de même bon espoir. Juste pour en terminer, toi, s'il fallait te demander sur de 0 à 10, est-ce que comment tu la sens? Est-ce que tu es plutôt dubitatif? Est-ce que tu es vraiment moite-moite, 50-50? Ou est-ce que tu te dis, non, il y a quand même, il y a plusieurs choses. Il y a le fait que, on a goûté au Chili, on a goûté à la démocratie. Je veux dire, la période de l'unité populaire, je pense qu'elle est tout de même présente encore dans les mémoires, quoi. Quand on y a goûté, peut-être qu'on y revient. Alors je me dis, ça, peut-être que ça serait une raison d'être extrêmement optimiste. Et en même temps, on sait la force et la force de frappe de la réaction. Et ça pourrait nous dire, et de la répression également, ça pourrait nous tendre vers une forme de pessimisme. Alors comment toi, tu te positionnes par rapport à ça?
Pour pouvoir répondre de manière plus détaillée, je vais décliner ça au moins en deux questions. Si sur la question de la nouvelle constitution, si elle va introduire des choses qui vont quand même être qui vont vraiment être des avancées, je serais entre 7 et 8 sur 10, on va dire, sur cette nouvelle constitution et sur le fait qu'elle va être approuvée. Je pense que cette dynamique là, elle est importante à soutenir. Et sauf un accident de l'histoire, comme j'ai dit, ça serait plutôt 7 ou 8 sur 10. Mais sur le fait de qui va gouverner le prochain régime politique, et là, il faut se prononcer du coup plutôt sur les partis politiques existants et ceux qui ont plus de force. Là, je dirais, pour être mitigé, un 5 sur 10, disons. Parce que, par exemple, c'est un point qu'on a pas pu trop parler, mais c'est vrai qu'il y a une candidature du Parti communiste chilien. Le candidat, il s'appelle Daniel Jadue. C'est le maire d'une commune populaire à Santiago. Il est maire depuis déjà plusieurs années. Et puis, là, dans sa gestion municipale, il a fait des changements. Il a commencé par une pharmacie populaire dans laquelle il a pu, par exemple, à travers des négociations avec l'industrie, faire baisser les prix, parce que si, en gros, si tu achètes en gros, ou si tu peux faire certains contrats qui sont, où tu passes pas par des distributeurs, tu passes directement avec l'industrie, bah, tu peux baisser les coûts. Donc, il a introduit, pharmacie populaire, il a commencé avec, une régie populaire, une régie immobilière populaire, comme on a ici, par exemple, où on a l'État qui a certaines propriétés, certains appartements, et qui fait des prix un peu plus accessibles avec l'aide sociale, etc. Donc lui, il a introduit ça aussi au niveau de sa commune. Bon, après, il a décliné, ça devient presque une blague, parce qu'il y a la librairie populaire, il y a aussi... Il y a beaucoup d'humour au Chili. Il y a un humoriste aussi qui a, c'est une petite parenthèse, mais c'est très drôle. Il y a un humoriste qui s'est déguisé dans ce candidat, et puis qu'il a dit même qu'il faisait un sex shop populaire ou des magasins pour fans populaires, etc. Ou même un McDonald's populaire. Donc ça devient une blague, mais finalement. Cette gestion, elle est très appréciée, et puis c'est l'argument principal de cette candidature. Et donc, il y a beaucoup d'espoir qu'au niveau du pays, ça puisse se faire. Mais oui, la droite chilienne, elle est extrêmement intéressante, parce que l'autre candidat de la droite, qui s'appelle Joaquín Lavín, c'est un personnage qui vient de l'Opus Dei, qui a été un jeune cadre de la dictature. Il a passé par plusieurs étapes, et puis il prétend qu'il se transforme, qu'il a tourné la page de la dictature, qu'il reconnaît les violations de droits humains. C'est un personnage qui est un peu sympathique. En tout cas, il est présenté de manière sympathique. Il fait pas des grands clivages, il fait pas des grands débats contradictoires. Il est assez lisse comme personnage. Il a même dit dernièrement que lui, il était pour la social-démocratie, donc un type qui vient de la droite pinochetiste, qui dit qu'il est favorable à la social-démocratie. Il a pas de crédibilité pour un certain secteur, mais pour la droite, c'est une tactique vraiment intéressante. Et lui, il a aussi fait dans la commune qu'il a gouvernée, qui est une des trois communes, justement, qui avait rejeté la constitution, une des trois communes les plus riches, qui s'appelle Las Condes. Et lui, il a aussi introduit au sein de sa commune des sortes de copies de ces différents organes populaires. Il a essayé de dire qu'à droite aussi, c'était possible de faire ce genre de politique. Alors évidemment, c'est fake, mais ça a un certain effet dans un certain électorat. Et puis, du coup, c'est là où je justifie ma note plus mitigée, parce que je crois que on n'en est pas encore à la capacité de se débarrasser définitivement de cette oligarchie chilienne qui a gouverné le pays durant 200 ans. Ouais. Et c'est là où c'est pas mitigé pour dire que tout est foutu, mais ça va nécessiter encore des luttes. Et je pense que ça devrait être une des leçons les plus importantes du peuple chilien, c'est de comprendre que à travers des luttes, même s'ils sont pas au gouvernement, ils peuvent obtenir des victoires. Et si vraiment un mouvement ouvrier populaire arrive à se reconstruire avec cette confiance-là, on pourra faire honneur finalement à tous ceux qui ont lutté avant nous au 19e siècle, au 20e siècle, durant l'unité populaire. C'est si on comprend que c'est à la base du peuple qu'on peut construire cette nouvelle société, et on ne doit pas naissent tout le temps déléguer ça à d'autres personnes, à des experts, à des gens qui ont fait des grandes études universitaires, mais qui n'arrivent pas à comprendre que 30 pesos c'est beaucoup dans le budget des familles, des étudiants et des retraités, quoi. Donc on est dans cette type de contradiction, et il faut faire confiance aussi dans la capacité du peuple de gérer une autre société.